sport de 2022, Michel Bonnet. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur quelque chose qui est profondément occitan, mais dont on parle quasiment jamais, et j'ai pensé que ça valait la peine de l'évoquer. C'est le drapeau occitan, puisqu'il a été très très lié à Raymond VII, à Cordes évidemment aussi. Vous voyez ce drapeau, qui s'appelle de différents noms, au cours des siècles, etc., qui s'étale sur en dehors de Toulouse et en dehors de l'Occitanie même. Il a d'abord une caractéristique, c'est que il est rouge. C'est pas du rouge. Tout le monde dit rouge sang. C'est pas du rouge sang. Hein. C'est un rouge particulier qui est plutôt sur le vermillon. On va en parler d'ailleurs comment il est fait ce rouge. Et c'est un drapeau qui est typique des Côtes de Toulouse, de l'ensemble des Côtes de Toulouse, depuis le début, en fait, aussi loin qu'on remonte, disons, depuis le XIe siècle, et même sans doute avant, quoi. Donc, c'est un très très vieux, un très vieil emblème qui a été reconnu par les rois, les seigneurs, enfin, ça n'a pas changé, ça n'a jamais changé. Et même aujourd'hui, le drapeau occitan reste toujours le drapeau occitan. Bien sûr, il y a des tas de légendes au sujet de pourquoi cette couleur, pourquoi ceci, cela, etc. Au cours des siècles, on ne va pas s'amuser à ça, ce n'est pas la peine. Mais ce qui est important à remarquer, parce que ça nous dit quelque chose, c'est qu'on le retrouve absolument sur toute la frange méditerranéenne, depuis la frontière italienne et même un peu plus loin, tout le long de la Provence, du Languedoc, du Roussillon, et on descend jusqu'à la limite de la montée des Arabes en Espagne. Donc il est vraiment très lié à l'ensemble de l'Occitanie, je dirais la grande Occitanie. Au sens que ça comprend la moitié de l'Espagne, quoi. Oui, et ça, c'est intéressant de noter ça parce que il faut chercher la raison à cet étalement. Or, si on reste bien les pieds sur terre et pas les légendes, etc., il y a un point commun à toutes ces régions, c'est que le bord de mer sur une bande de, selon les cas, 50, 80, 60, 80 kilomètres. Donc, tout le long, c'est couvert, c'est ce qu'on appelle la garrigue, qui aujourd'hui est une calamité du point de vue des industriels, enfin des gens, etc., parce qu'elle ne produit rien, mais qui autrefois était la richesse numéro un. Et aujourd'hui, bien sûr, ça permet de faire des autoroutes comme on veut à travers la garrigue, ça permet de mettre des usines, etc., etc., parce qu'on considère que la garrigue n'apporte rien, qu'elle est stérile. Or, la garrigue est faite par un type particulier de chênes, des petits chênes, qui ont des épines au bout des feuilles, et qui ont une particularité, c'est que il y a des insectes qui pondent leurs œufs sur ces arbres et uniquement sur ces arbres, et ils les pondent à une époque donnée et en grappe. Alors l'époque c'est en ce moment au mois de mai juin, à partir de la mi-mai, ça dépend du climat des années bien sûr, hein. Et donc là, pendant un mois et demi, les larves pondent ces œufs et on a des grappes sur tous ces arbres pendus aux branches. En pagaille, en pagaille, en pagaille. Ça ressemble, ce qui pourrait ressembler le mieux, c'est, vous voyez, les boules de gui, ou des petits pois si vous préférez, quoi. Cette grosseur-là, ils sont collés un peu entre eux, ces œufs, pour faire une petite grappe, comme une grappe de raisin en quelque sorte, mais bien collés à eux. Et ils ont une couleur qui, petit à petit, va vers le rouge. Et c'est pour ça qu'on le nom de la larve, c'est le kermès, et le nom de la couleur vient de cette larve qui donne donc ses œufs. Les œufs, une fois traités, vont donner la couleur du kermès. Voyez, donc cette couleur du drapeau occitan vient du kermès, et c'est la couleur kermès qui est entre le rouge et le vermillon. Vous voyez, c'est bon, aujourd'hui on s'en fiche, mais autrefois c'était très 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 précis, quoi. Vous voyez, c'est très précis. On ce n'est pas n'importe quel rouge, n'importe quel vermillon, etc. Et donc ce kermès est fait avec ces larves qui, arrivant à un certain degré de dans les œufs arrivant à un certain degré de maturation, si on les cueille, on peut les faire sécher et en faire une poudre rouge. Si on ne les cueille pas, ils éclatent, ils sont perdus. Donc, il faut, d'une part, si on veut s'en servir, il faut surveiller l'arrivée des larves, surveiller les œufs, comment ils se portent, et puis les ramasser comme il faut dans le temps. Voyez de suite ce que ça signifie. C'est que d'une part, ça demande du travail, et donc ça donne de l'emploi, ça donne et ça donne de la richesse, puisque d'une part, pour ceux qui travaillent, ça leur fait un revenu, et d'autre part, pour ceux qui les vendent, évidemment, ça fait aussi des profits qui peuvent être assez importants et qui étaient au temps de Raymond VII, qui étaient à cette époque-là. Après, ça va baisser, mais à cette époque-là, c'était le top. C'était le meilleur moment. C'était la grande richesse de l'Occitanie, la grande richesse du comté de Toulouse et des comtes de Toulouse. C'est avec ça qu'ils pouvaient, enfin, disons bien, faire tourner l'Occitanie, se battre et tout le reste. Et ce point-là, on va voir que ça concerne également la structure sociale de l'Occitanie. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Auparavant, on va s'arrêter quelques minutes pour écouter un peu de musique.
Sur un état de soumission. I wanna G-Fly, I wanna G-Fly, I wanna G-Fly, la la la. See the creator where the sun is blood my flow Deep bossing up, see I'm gonna be harsh Boom in the cream, harsh This boom at your deep commish But second you're not good, coolish You just a pain in darwish Why not hear the wish? Yeah, why not hear the wish? Yeah, I'm not my endish Willi endi fit barabush Emily, they could be beyond her game I'll crush him in la douche Don't let I go, I'll lose Get up, be belle, be papish Go to the papish, cause go need you
Luna. Viens dans mon hamac, détends-toi, t'as ton bac, t'as tout le temps d'aller à la fac. I wanna G-Fly, I wanna G-Fly, I wanna G-Fly, lie, 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 lie. I wanna G-Fly, I wanna G-Fly, I wanna G-Fly, lie, 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 lie.
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous parlons donc du drapeau occitan et en ce moment de la couleur du drapeau occitan qui est faite avec cette larve qu'on appelle le kermès. Et donc, il faut ramasser les œufs des larves quand ils arrivent à maturité, en mai-juin. Il y en a des millions, parce qu'il y en a sur... chacune des petites branches de chacun des chênes, des petits chênes rabougris là, qu'il y a dans la garrigue. Et donc, il faut les ramasser. Ça donne énormément de travail aux gens qui y a. Comme ça va se vendre très cher, c'est très surveillé dans chaque village. Et plus le village est important, vous vous doutez que plus la surveillance sera stricte. Dans chaque village, il y a quelqu'un, parfois plusieurs hommes, plusieurs soldats, plusieurs sergents, qui sont chargés de se balader en permanence dans la garrigue, au début du mois de mai, à partir du mois de mai, pour surveiller l'arrivée de du kermès, de ces larves. Et c'est eux qui donnent le signal. Mais en même temps, ils doivent surveiller parce que il y a chaque portion de garrigue appartient à un village. Bien sûr, c'est une richesse importante pour le village, ou pour le seigneur, ou pour les propriétaires d'un terrain, mais c'est surtout par les villages, vous voyez. Et c'est important parce que il y a des voleurs, il y a des gars qui arrivent et qui ramassent ça pendant la nuit, en douce, comme nous avec les champignons ou des choses comme ça, vous voyez. Mais là, ça pose un problème aussi parce que pour les ramasser, très souvent, ces voleurs se contentent simplement de secouer les arbres très très fortement. Et c'est pas des gros arbres, vous le savez, dans la garrigue. Et donc les œufs tombent par terre, on les ramasse comme ça ou on les met dans des sacs. Seulement ils s'abîment et ça donne pas du bon produit, et donc c'est une concurrence aucune concurrence est bonne, je pense, mais enfin là c'est vraiment mauvais. Donc vous voyez déjà que tous les villages sont très attentifs à ce qui se passe avec ce kermès, et en plus à l'intérieur du village, donc, il va y avoir qui ramasse, qui transporte, s'occupe de faire sécher les œufs, qui s'occupe de les écraser, de les mettre en poudre, de les traiter, ou bien de les vendre directement comme cela, une fois que la poudre est faite, de vendre en tant que poudre, et de les vendre où ? Au village à côté, à la ville à côté, à Montpellier, à Nîmes, à Perpignan, à Toulouse, ou bien de l'expédier très loin. On en envoie jusqu'en Angleterre, jusqu'en dans les pays scandinaves. Oui, c'est très très important. Donc, il y a beaucoup d'enjeux économiques là-dedans, à la fois pour les gens qui travaillent, parce que c'est leur gagne-pain, et ça va, en 2 mois, ils gagnent grosso modo ce qu'ils vont avoir pour vivre pendant l'année. Et donc, c'est important. Et après, il y a des choses, mais c'est du bricolage, quoi. Et donc, ça, c'est important. Et puis, c'est important d'avoir une bonne récolte et de bien traiter le kermès, parce que on va s'en servir de suite pour teindre la laine, les fils, disons. Et donc, dans chaque village, les tisserands attendent cela. Et les tisserands, chaque année, ils ont besoin de ces laines de rouge, ces bobines de fils qui auront été teintes au kermès. Il y a d'autres couleurs, bien sûr, mais là, c'est très important. D'autant plus important que la couleur rouge, jusqu'au XIIIe siècle, grosso modo, c'est la couleur, disons, officielle, en quelque sorte. Et c'est la couleur des riches, c'est la couleur des comtes, c'est la couleur des nobles, c'est la couleur de Christian Dior et tout le reste, quoi. Mais ça va changer. Ça change à ce moment-là, puisque le roi de France, qui va étendre son pouvoir sur l'ensemble de la France, lui a le bleu de France comme couleur. Et c'est le bleu qui va devenir la grande couleur, le top du luxe à cette époque-là. Donc, vous voyez comment cette couleur du drapeau représente vraiment l'Occitanie, elle représente la population d'Occitanie, et à tous les niveaux du travail, tout le monde est impliqué dans cette... Et tout le monde se reconnaît dans cette couleur-là. C'est quelque chose qui est, je dirais presque... Enfin, qui est sentimental, en quelque sorte, vous voyez, c'est mythique, ça. Même aujourd'hui, je pense que, pour nous, Occitans, ce drapeau, cette couleur, ça dit quelque chose. On l'aime, on le trouve partout, et on aime ça. Et on n'est pas content quand on nous le trafique. Il n'y a qu'à voir comment ça s'est passé avec les logos de la région occitane pour savoir qu'est-ce qu'on allait choisir et comment, etc. Et bien sûr, il fallait choisir le drapeau occitan, mais on voulait y mettre des trucs, vous voyez, dessus, ajouter ici une étoile, là autre chose. Bref, voilà. Alors donc, ce drapeau occitan... en dehors de toute légende, vous voyez comment il est vraiment lié à la population, à la vie très concrète de la population, au travail de la population, à l'industrie de l'Occitanie, puisque à cette époque-là, au XIIe, XIIIe siècle, le tissage, c'est l'industrie numéro 1 en Occitanie. On n'imagine pas une ville, bien sûr, avec des tas de tisserands, mais même un petit village avec au moins un métier de tisserand. Et un tisserand pour, si vous voyez le drapeau occitan, vous prenez une bande de 4 mètres de large et de 20 mètres de long, ça c'est le travail d'une journée. Donc, avec c'est des bandes de tissu standard. Et c'est ça qu'on va vendre en rouleau pour l'exportation, etc. Mais pour qu'un tisserand puisse travailler pendant une journée, sinon il a besoin de ça pour travailler, pour gagner sa vie, quoi. Il faut qu'il y ait l'équivalent de travail à plein temps de 7 personnes, 7 femmes qui assurent le filage, le fil le fil rouge, etc. Et en plus, évidemment, après, la couleur, il va falloir mettre ça les différentes couleurs, etc. Donc vous voyez qu'on est à la base vraiment d'une industrie qui est l'industrie numéro 1 de l'Occitanie et qui fabrique en quelque sorte la structure sociale occitane. On s'arrête quelques minutes.
CFM, l'esprit rock. Wow.
Doublure de mes habits, de mon joli pull canari, sur toutes mes bouteilles de vin rouge, on a collé des étiquettes sur tout ce qui bouge. Les films, les bouquins, les chansons ne font pas figure d'exception. Du coup, j'ai trouvé mon filon. Sur la planète, je crois que je suis premier du nom. Je suis le chanteur bio, 100% naturel. Bio ma dégaine de la tête aux orteils. Je suis le chanteur bio, 100% végétal. Mon nom à moi c'est Soul, y'a qu'à voir. Pose-toi sur ma branche, renifle un pétale. Doum, 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 tourne le bouton dans la radio. Doum, 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 que du mauvais son dans ton auto. On a combattu la malbouffe mais la musique de fast-food. Faut qu'un justicier lui barre la honte. Y'a pas de doute, il faudrait un super-héros. Une sorte de Nicolas Hulot avec trois lettres sur son chanteur bien, 100% naturel. Bio ma dégaine de la tête aux orteils. Je suis le chanteur bien, 100% végétal. Mon nom à moi c'est Soul, comme l'arbre. Les pieds dans la boue, mais en éventail. Chanteur bio.
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous parlons du drapeau occitan au temps de Raymond VII. Alors donc, on a vu la couleur, on a vu ce drapeau qui est vraiment typique, qui n'est pas réservé au comte de Toulouse, ne l'oublions pas, puisqu'on le retrouve sur l'ensemble des terres d'Occitanie, que l'on soit du comté de Toulouse ou non. Les autres, les autres sur Marseille, sur la Provence où la moitié n'a rien à voir avec le comte de Toulouse, et ainsi de suite, ce sont des ils ont aussi ce drapeau. Et il y a une particularité, c'est que ce drapeau a une croix, et une croix très précise, très particulière, qui n'est pas n'importe laquelle. Cette croix, elle est très ancienne. On ne sait pas exactement quand elle a été inventée, quand elle a été décidée, quand on a décidé de la mettre sur le drapeau occitan, parce que on n'a pas de documents, c'est trop vieux. Le premier document qu'on a qui est absolument certain, il date de 973. Oui, donc c'est quand même assez vieux, le 10e siècle. Et il est venu quand il est venu de l'entourage des vicomtes de Marseille, en fait. Il vient de Provence. Il ne vient pas de Toulouse. Hein. La croix de Toulouse, la croix occitane, elle n'est pas toulousaine. Hein. Bon. Mais elle l'est devenue au cours des âges. Mais au démarrage, elle est née ailleurs. Elle est née en Provence avec un des descendants du grand comte de Provence, Guillaume Ier, qui était connu... On l'appelait même Guillaume le Libérateur, vous voyez, parce que c'est lui qui avait, réussi à expulser définitivement ou à peu près de Provence les Sarrasins. Donc, c'était vraiment un libérateur. Et un de ses descendants, Guillaume III, qui s'appelait Guillaume III Taillefer, il s'est marié avec la fille de Bosson d'Arles, bon ça vous est égal le nom du gars quoi, enfin un gars de là-bas, et c'est à ce moment-là que avec ce mariage entre Guillaume III de Toulouse, Guillaume III Taillefer et Emma de Provence, que la croix de Toulouse, la croix occitane est arrivée sur le drapeau occitan. Donc ça on le sait de façon très précise, très sûre. Et exactement, c'est en 1019. Mais comme je vous l'ai dit, la croix existait déjà. Donc, en 1019, on a ça. On a une autre marque importante, c'est que à l'occasion de la première croisade vers Jérusalem, comme vous savez, c'était le Raymond de Toulouse. Il s'appelait à l'époque Raymond de Saint-Gilles, et Raymond IV, le plus grand des comtes de Toulouse, dans la lignée des comtes de Toulouse. Il était patron de la première croisade, et le pape, lui-même, Urbain II, a reconnu officiellement comme emblème du comte de Toulouse la croix, le drapeau occitan avec la croix occitane. Donc, bon, ça ne change peut-être pas grand-chose pour nous. À l'époque, si, ça a changé quelque chose parce que c'était une reconnaissance tout à fait officielle, c'était important. Et c'est à partir de ce moment-là que le comte de Toulouse s'est appelé également marquis de Provence, puisqu'il s'était marié avec la fille du comte de Provence, et qui a décidé d'utiliser la croix, cette croix-là occitane, non seulement sur son drapeau, mais également sur son sceau. Donc vous voyez, ça devenait tout à fait la marque du comte. Et d'ailleurs, quand il est... Vous savez qu'il est... Il est parti là-bas à Jérusalem, il s'est battu comme un diable, ou comme un saint chrétien, pas un diable. Et bon, il est mort là-bas, mais il est devenu comte de Triboli. Il est parti là-bas en disant « Je ne rentrerai pas chez moi en France, enfin en Occitanie. Je m'installe là-bas, je m'installe à côté du tombeau du Christ, je m'installe sur la terre sainte, etc. » Et effectivement, il a pris Tripoli, il s'en est fait son comté à lui, il est devenu comte de Tripoli, ça l'intéresse plus que Jérusalem, c'était peut-être aussi plus riche que Jérusalem, je pense, en termes monétaires, en termes symboliques, bien sûr, complètement différents. Et ses descendants ont gardé, pendant une centaine d'années, après, bon, ils ont disparu, ils ont gardé le drapeau occitan, le drapeau avec la croix occitane, comme emblème de du comté de Tripoli. Vous voyez, donc, il s'est étalé, ce drapeau s'est étalé sur l'ensemble de l'Orient. Cette croix, on la retrouve sur les sceaux, non seulement de comte de Toulouse, mais également sur ses monnaies. Et il y a beaucoup de monnaies de chaque... Chaque fois qu'un comte changeait, un comte de Toulouse changeait, c'est pareil pour les rois, c'est pareil pour tout le monde, hein, et on changeait de sceau et on changeait de monnaie, habituellement. Hein. Et donc, chacun a toujours mis la croix occitane gravée sur la monnaie. Et on la retrouve également sur le sceau de Jeanne, la mère de Raymond VII, c'est tout à fait exceptionnel, et également, on peut encore aller la voir aujourd'hui, elle est une des clés de voûte de la nef de Saint-Cernin à Toulouse, de la basilique Saint-Cernin à Toulouse. Et cette clé de voûte est datée de 1211, donc vous voyez, l'époque juste au début de la croisade et l'époque de Raymond VII. On fait encore une petite pause.
CFM
de Cahors à Albi.
De Cahors à Albi.
L'esprit rock.
Just a crosshair. I'm just a shot.
Cordes 2022, Michel Bonnet. Nous continuons donc à réfléchir à la place de la croix occitane. Et donc, cette croix qui est posée, qui est fixée sur le drapeau occitan. Alors, comme vous le savez, c'est une croix qui est particulière. Elle n'a rien à voir avec l'Église catholique. Elle n'a rien à voir avec le christianisme. Au moment des Cathares, et donc au moment où ça, il y a eu, comme vous le savez, ça a été très dur au niveau religieux sur l'ensemble de l'Occitanie, l'Église a essayé de faire croire que cette croix était le symbole de l'Église catholique, que c'était la croix de Jésus-Christ, qu'au centre, il y avait Jésus-Christ et qui rayonnait, enfin, etc., etc. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas pris, parce que c'était trop ancré dans les traditions, même dans la mythologie. La grande différence qu'il y a entre cette croix, je pense que tout le monde le sait, mais en fait, c'est pas mauvais de le rappeler, quoi. C'est que la croix chrétienne, c'est une croix qui a été plantée en terre. C'est-à-dire, elle rappelle la mort de Jésus-Christ, et donc il y a une des branches, celle qui est plantée en terre, qui est plus longue que les autres. Donc il y a la branche du bas qui est longue, et les trois autres, les bras, les deux bras et au-dessus de la tête, qui sont à égalité. Tandis que la croix toulousaine, ou la croix de Provence, comme on veut, la croix occitane, elle a rigoureusement les quatre bras les mêmes. Oui, les mêmes. Pourquoi ? Mais parce que c'est tiré du symbole de la roue, vous voyez, avec un axe au milieu, donc la rencontre de ces quatre bras, et ensuite, les bras d'une roue, et ça tourne. Et c'est ça qui est... Et pourquoi ce symbole-là existe depuis les temps anciens, on ne sait pas de quand, des milliers d'années. C'est parce que ça reproduit le mouvement de la... Pas de la Terre, puisqu'on ne savait pas que la Terre était ronde autrefois, mais le mouvement des étoiles qu'on voyait bien dans le ciel, qui tournaient sans arrêt, vous voyez. Et donc, c'était ça la vie. On savait que c'était dans le ciel qu'il y avait la vie. On savait, et c'est pour ça que vous aviez, le ciel était divisé en 12 parties, avec les Verseaux, les signes du zodiaque, les Verseaux, etc. Et, vous voyez, les 12 signes du zodiaque qui représentaient l'ensemble de l'existence, du monde visible mais aussi invisible, parce que dans chacune de ces étoiles représentait des personnages, il y avait des tas d'histoires, des faits, enfin, on va pas revenir là-dessus, quoi. Vous voyez ça, et c'est pour ça que cette croix qui divisait donc le monde et le ciel et la vie sur terre et donnait son rythme à la vie en tournant régulièrement comme ça, elle divisait ça en quatre parties, et chacune de ces parties, on mettait soit une saison, vous voyez, ça dépendait des provinces ou des endroits. Il y en a qui insistaient quand ils parlaient de la croix occitane, et ils disaient ça représente les quatre saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Mais il y en a beaucoup qui, je pense qu'on peut dire aussi que c'était le plus répandu, qui regardait le ciel et disait non, c'est les 12 signes du zodiaque qui sont divisés en quatre parties. Oui. Et c'est pour ça que à chaque bout de la croix occitane, il y a trois boules. Oui. Donc 12 boules. Et si vous l'avez fait, bien sûr, vous êtes, quand vous allez à Toulouse, au centre de Toulouse, à la place du Capitole, ces dernières années, quoi, il y a eu un regain d'Occitanie, et il y a un artiste qui a proposé de mettre la croix occitane sur le sol avec les signes du zodiaque. Donc, sur la place du Capitole, promenez-vous sur la place du Capitole, vous allez voir ça, cet énorme dallage avec, avec la croix occitane et les signes du zodiaque. Et évidemment, vous savez que vous pouvez lire des tas de bouquins qui vous diront que Toulouse est construite selon les signes du zodiaque, etc. Il y en a même qui disent que, vu que Raymond VII était comte de Toulouse, Cordes aussi est construit en fonction des signes du zodiaque. Je vous dirais que je vais pas jusque là. Mais enfin, bon, chacun peut rêver comme il veut. Donc, vous voyez, ce que simplement je veux dire et que c'est bon de rappeler, c'est que la croix occitane, c'est le rappel de très très vieilles traditions, le rappel des religions qui ont précédé la religion chrétienne, c'est le rappel de cette vie intellectuelle, culturelle, sentimentale, enfin c'est le symbole même de la vie tout court, la vie humaine, vous voyez. Et c'est intéressant. Et je note quand même une chose. C'est un petit. Il faut regarder ça avec de l'humour, bien sûr. Hein, on rigole. Mais vous savez que dernièrement, on a passé des lois dans notre cher Parlement français pour interdire les signes religieux à l'école, dans les milieux scolaires ou les milieux officiels, etc. Et il y a eu une offensive pour dire donc il faut interdire les bijoux ou lorsque les gars se mettent à la boutonnière ou les filles autour du cou une croix occitane, on se met toujours des breloques par-ci par-là pour se faire joli, pour se faire remarquer, etc. Et il y en a qui ont dit hop, c'est interdit. La croix est interdite, c'est un signe religieux, etc. Et heureusement, les Occitans ont été assez forts, au moins pour l'instant, hein, pour dire non, ce n'est pas un signe religieux. C'est un signe, disons, on est allé en allant vite, c'est un signe d'une appartenance linguistique, enfin d'une appartenance culturelle, quoi. Donc voilà, donc notre chère croix occitane, même aujourd'hui, elle continue de temps en temps à faire des remous. Voilà, c'était juste pour nous dire qu'au temps de Raymond VII, et aujourd'hui aussi, on est relié par ce drapeau occitan avec la croix occitane. Je vous remercie, c'était Cordes 2022 avec Michel Bonnet.
You strip the message, yeah, you change the frame. Wash it wider, stole our name. Try to slip away through the back door. Did you pull it off? No, you can't be sure. Cause confusion, hide behind. Misdirection, lies implied. Try to empty out the cultural ties. Then you fill it with your signal fire. So walk on down your ragged mile, cause we won't be too far behind. And when you fall, you're gonna want to know who it really was who took you down. And when you fall, we'll be there waiting for you. There's no exit, you can't turn around. When you got it, you forgot it. It was never.
Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, I passed 21. I want you to believe me, honey, I have lots of fun. I'm a man, spell him H-I-N, that rather than man. Baby, oh child, why? That means manish boy. I'm a man, I'm a full grown. I'm a main child, I'm a rolling stone. I'm a main child, I'm a hoochie coochie man.
Cœur meurtri, allô Paris, tout est fini.